Dès lundi, il n'y aura plus de restrictions sur la vente de boissons alcooliques de moins de 10 degrés, comme la bière ou le cidre. Les limitations de vente d'alcool ne s'appliqueront plus qu'aux boissons à plus de 22 degrés. Un incendie hier soir à Montravel, les flammes ont détruit un local d'entrepôt. D'après nos informations, les forces de l'ordre ont essuyé des caillassages durant cette mission. Le nouvel évêque de Nouméa, Mgr Sione Poé, nous a accordé un entretien exclusif hier. Vous l'entendrez dans ce journal. Deux rendez-vous politiques ce week-end sur le territoire. Le premier comité directeur de l'UC de l'année à Moindou et la DUS qui réunit aussi sa première coordination générale de l'année. La politique en métropole, François Bayrou a réuni les partenaires sociaux. Une réunion fixée qui doit fixer le cadre de cycle de concertation autour de la réforme des retraites. Au Moyen-Orient, on en sait plus sur les contours de l'accord entre Israël et le Hamas. Accord de trêve, mais aussi de libération d'otages. Et puis les sports avec l'Open d'Australie. Hugo Humbert qualifié pour les huitièmes de finale. Deux Français seront sur les courts aujourd'hui. Gaël Monfils d'un côté, Corentin Moutet de l'autre. Bonjour à tous et on ouvre ce journal avec cette fin des restrictions de vente de bière dès lundi. Le Haut Commissariat a publié un nouvel arrêté concernant les mesures administratives en vigueur sur le territoire. Les limitations de vente d'alcool ne s'appliqueront plus qu'aux boissons à plus de 22 degrés d'alcool. Michael Juneski.
Oui, pour l'instant, l'achat de boissons de moins de 10 degrés comme la bière ou le cidre est toujours restreinte à 4 litres par jour et par personne. Dès lundi, ce ne sera plus le cas. Les restrictions ne concerneront plus que les alcools forts comme le whisky, le rhum ou la vodka. Leur achat sera toujours limité à 1 litre par jour et par personne. La vente de boissons entre 10 degrés et 22 degrés, comme le vin, n'était quant à elle déjà plus limitée depuis le mois de décembre. D'autres mesures sont reconduites, comme la vente de munitions, qui est toujours fixée à 50 maximum par mois, ou encore l'interdiction de rassemblements, manifestations et cortèges dans le Grand Nouméa. Toutes ces mesures prendront effet ce lundi 20 janvier et resteront effectives au moins jusqu'au 3 février inclus.
Au chapitre des faits divers, une intervention des pompiers de Nouméa et des forces de l'ordre sur un incendie hier à Montravel. Les faits sont survenus vers 20h. Les flammes ont détruit un local d'entrepôt. EEC a dû couper le courant afin de sécuriser cette intervention. Il s'agirait d'un incendie d'origine probablement criminelle. Les pompiers se sont déplacés sous protection des policiers et des gendarmes qui sont venus en nombre. D'après nos informations, les forces de l'ordre ont essuyé des caillassages durant cette mission. D'autres petits feux ont été allumés durant leur passage dans le quartier. Nous suivrons cette actualité dans la journée pour vous donner toutes les dernières informations. Et du côté des sapeurs-pompiers, attention aux informations mensongères. L'Union des pompiers calédoniens ainsi que le maire du Mont-d'Or démentent les rumeurs concernant le droit de retrait des pompiers de la commune du Mont-d'Or, Michael.
Oui, absolument. Cette semaine, un post circule sur le réseau social Facebook. Face aux agressions subies lors de leur mission, les pompiers du Mont-d'Or auraient fait valoir leur droit de retrait et se retireraient du terrain. En réalité, il n'en est rien. Il s'agit d'une fausse information qui, relayée sur les réseaux, a pris de l'ampleur. Un incident qui a interpellé l'Union des pompiers calédoniens. Comme l'explique l'adjudante Isabelle Marlier, secrétaire générale de l'Union des pompiers calédoniens, c'est un de leurs postes qui a été repris pour créer une fake news.
Le 4 décembre, le VSAV des pompiers du Mont-d'Or se faisait sauvagement caillasser en intervention avec une victime à bord en traversant Saint-Louis pour aller en direction du Médipôle. Et nous avions tenté d'alerter les forces publiques, mais aussi la population, par le biais du poste Facebook de l'Union des pompiers, pour dénoncer ces faits aussi. Et puis, on avait donc rappelé à l'ensemble de la population qu'il existait le droit de retrait. C'est que si un jour nous nous sentions menacés, en danger de mort, nous étions en droit de l'utiliser. Ça date du 4 décembre. Cette semaine, une page Facebook a utilisé le corps de ce poste, a changé l'intitulé, a changé le titre et a annoncé publiquement, au moyen d'un photomontage entre autres, que les pompiers du Mont-d'Or n'intervenaient plus, ne remplissaient plus leur mission de secours à personne sur Saint-Louis et sur le Mont-d'Or Sud.
Heureusement, l'Union des pompiers calédoniens ainsi que le maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux, ont pu être alertés. Le maire a dénoncé ces actes, déclarant, je cite, qu'il est inadmissible que ce type d'affirmation vienne entacher le travail et les efforts de nos soldats du feu. De son côté, l'Union des pompiers calédoniens tient à rassurer la population. Le droit de retrait ne sera pas exercé. Il prévoit d'ailleurs de porter plainte contre la page ayant relayé cette fausse information.
L'actualité religieuse, mercredi dernier, Monseigneur Susitino Sionepoe est devenu le nouvel archevêque de Nouméa, nommé par Rome. Il va remplacer en avril prochain Monseigneur Calvé. Monseigneur Sionepoe nous a accordé sa première interview hier, Kelinda Boicou.
Jusqu'à présent, évêque de Wallis et Futuna, il connaît bien le territoire puisqu'il a servi en tant que prêtre à Puebo de 1996 à 2000, puis à Kumak jusqu'en 2006. Il a ensuite rejoint la communauté mariste de Saint-Louis au Mont-d'Or avant d'être ordonné évêque de Wallis et Futuna en 2018. Monseigneur Sionepoe n'arrive donc pas en terrain inconnu, mais sa nomination reste pour lui une surprise.
C'est une grande surprise, une nomination inattendue pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas encore dessiné ou je n'ai pas encore approfondi ce que sera l'avenir, la suite de l'avenir de mon épiscopat. Ce qui me revient à cœur, c'est d'être au départ, être à l'écoute des uns des autres. Et je compte beaucoup sur l'expérience, la vie, le partage des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses et des différentes communautés chrétiennes pour qu'ensemble on puisse dessiner ensemble l'Église de demain qui puisse répondre aux attentes des hommes et des femmes de la Nouvelle-Calédonie.
Le nouvel évêque de Nouméa aborde sa nouvelle mission avec l'intention de s'inscrire dans les pas de Monseigneur Calvé, son prédécesseur.
Je continuerai toujours l'œuvre qui a été déjà commencée, accomplie par mon prédécesseur, Michel Calvé. Donc je pense qu'il y a déjà mis en place des structures, des différents projets pastoraux que je continuerai. Je pense que le premier objectif, c'est d'arriver à écouter les uns les autres, surtout en ce temps que la Nouvelle-Calédonie est bien éprouvée par ce qui s'est passé. Mon premier objectif, c'est de bâtir ensemble, de définir ensemble l'image, quel genre d'image que l'Église peut se bâtir ensemble afin de répondre aux attentes de la population, de réaliser l'unité du peuple de Dieu.
Monseigneur Sionepoe connaît la situation que traverse la Calédonie et il a adressé son premier message aux Calédoniens.
On tiendra compte de la situation actuelle et de ce qu'on peut faire avec l'ensemble des clergés. Je veux transmettre ici mes meilleurs voeux à toute la Calédonie et surtout en cette année, l'année sainte, l'année jubilaire, qu'on puisse tous ensemble œuvrer pour bâtir une église à l'image de celle que le Christ a fondée et pour pouvoir répondre à la situation, aux défis de l'église d'aujourd'hui, de toute la population de la Nouvelle-Calédonie.
L'installation officielle du nouvel archevêque de Nouméa, Monseigneur Sionepoe, aura lieu le 12 avril prochain en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa. Après son installation en avril prochain, il fera le tour des paroisses de Calédonie pour aller à la rencontre de la population calédonienne.
Et du côté de l'actualité politique, maintenant sur le territoire, deux rendez-vous dans l'agenda du week-end. L'Union calédonienne réunit aujourd'hui un comité directeur du côté de Moindou. Les délégués devront notamment préparer le congrès du FLNKS qui se réunit la semaine prochaine, faire le point également sur les discussions sur l'avenir prévues à Paris à la fin du mois. De son côté, la DUS réunit également aujourd'hui sa première coordination générale de l'année. Il s'agira là aussi de préparer le prochain congrès du FLNKS.
Vous écoutez Info Week-end, il est 7h09.
Et face à l'épidémie de grippe qui frappe actuellement la Nouvelle-Calédonie, adoptons les bons gestes, Michael Juneski.
Oui, le gouvernement alerte face au risque de propagation de l'épidémie sur le territoire. Il rappelle l'importance de la prévention pour notamment protéger les personnes les plus fragiles et limiter la pression sur les services hospitaliers et sur la médecine de ville. Pour protéger votre santé et celle des autres, portez un masque, lavez-vous régulièrement les mains, limitez les contacts avec les autres, en particulier les personnes vulnérables, et pensez à éternuer dans un mouchoir à usage unique.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui dans un contexte marqué par le manque de professionnels de santé sur le territoire, et donc, on le disait également par cette épidémie de grippe, vient de renouveler la convention pour la délivrance du diplôme d'état d'infirmier, une annonce faite hier après-midi par voie de communiqué. Un renouvellement qui vise à garantir la qualité de la formation des infirmiers et à répondre aux besoins croissants du secteur de la santé. C'est une garantie de qualité pour les établissements de santé, mais aussi une sécurité pour les étudiants infirmiers. Ils pourront obtenir à l'issue de leur cursus un diplôme d'état infirmier en adéquation avec les standards de la profession.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent que la province sud a raison de ne plus prendre en compte les attestations d'hébergement, mais seulement les adresses effectives des parents des élèves de primaire qui font une demande de dérogation scolaire. Ils sont 17% à penser qu'elle n'a pas raison. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. 7h11, on marque une première pause dans ce journal avant de revenir sur toute l'actualité nationale et internationale.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Bonne année à tous de la part de Magie. Que cette nouvelle année soit remplie de saveurs délicieuses et d'expériences culinaires inoubliables.
Chez Magie, nous vous accompagnons tout au long de l'année avec nos produits savoureux et inspirants. Magie, cuisiner, ça change la vie.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Week-end, Léo Fichou.
Et là, en métropole, la réforme des retraites au cœur des débats et des discussions. Réunion ces dernières heures autour de François Bayrou au ministère du Travail. Réunion qui avait pour but de fixer le cadre de cycle de concertation. Le Premier ministre est ressorti satisfait, confiant d'un accord d'ici la fin mai. Matignon se félicite d'un premier pas encourageant. Mayalène Trémollet pour Europe 1.
Oui, au terme de deux longues heures de discussion, François Bayrou s'affiche très optimiste et espère obtenir un accord fin mai.
C'était une réunion très intéressante et très encourageante. Je ne parle pas de victoire. Il est inimaginable que ce problème si important se résolve uniquement par l'épreuve de force.
Moins enthousiastes, les représentants syndicaux réclament une clarification sur les chiffres du déficit du système de retraite avancé par François Bayrou pour partir au moins du même constat. Sophie Binet, numéro 1 de la CGT, souligne néanmoins la volonté du gouvernement de soumettre les résultats du conclave au Parlement.
Le tour de table de ce matin a aussi été l'occasion de constater l'ampleur des désaccords. Le Premier ministre a confirmé son engagement de donner le dernier mot à la démocratie. Les députés, à l'époque, n'avaient pas pu voter sur le sujet puisque le gouvernement avait dégainé le 49-3.
Le Premier ministre y a annoncé que la mission flash de la Cour des comptes devra rendre ses résultats le 19 février. On y voit un peu plus clair sur le calendrier, concède Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT.
Mayalène Trémollet pour Europe 1. Notez au Moyen-Orient qu'on en sait un peu plus sur les contours de l'accord entre Israël et le Hamas. L'accord de trêve doit commencer dimanche. Il s'agit d'un cessez-le-feu et d'une libération d'otages contre des prisonniers palestiniens. Frédéric Simon est à Tel Aviv. Comment va se passer ce cessez-le-feu ?
D'abord, le gouvernement israélien débat en ce moment même de l'accord. Il devrait l'adopter en dépit de l'opposition des ministres des partis les plus à droite de la coalition. Par conséquent, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et les premières libérations d'otages auront bien lieu dimanche dans l'après-midi. Parallèlement aux libérations d'otages qui seront échelonnées en plusieurs étapes, Israël devra concrétiser ses propres engagements, retrait graduel de certaines des zones que son armée avait investies dans la bande de Gaza, retour progressif des civils gazaouis dans le nord du territoire et libération de plusieurs centaines de détenus palestiniens, parmi lesquels des terroristes condamnés à de lourdes peines de prison. L'accord prévoit également que 16 jours après la mise en œuvre de la trêve, des négociations débutent sur un cessez-le-feu définitif et sur la libération de tous les otages.
Cessez-le-feu donc, mais aussi de libération d'otages. On pense à nos deux compatriotes, Wadia Halomi et Ofer Calderon. Que sait-on sur les premiers otages qui vont être libérés ? Leur état de santé, qu'en est-il ? On retrouve Frédéric Simon pour Europe 1.
Le Hamas s'est refusé à donner des indications sur le nombre et l'identité des otages encore en vie. Il a accepté de ne révéler que 24 heures avant chaque libération l'identité des otages qui seront libérés le lendemain. Demain, en fin d'après-midi, on saura donc qui seront les trois premières otages à être libérés. Les 30 autres libérations s'effectueront par étapes au cours des 42 jours de trêve. Les premières otages à être libérés seront en principe les femmes civiles, les enfants s'ils sont encore en vie, puis les soldats, les hommes âgés de 50 ans au moins, enfin les hommes plus jeunes, blessés ou malades. À ce stade, Personne ne sait lesquels de ces 33 otages sont encore vivants. Aucune certitude donc sur l'état de santé des deux franco-israéliens, Ofer Calderon et Oad Yahalomi. Pas non plus sur les plus jeunes des otages, les frères Ariel et Kfir Bibas, âgés respectivement de 5 et 2 ans seulement. Le sort des otages les plus âgés, deux hommes de 87 et 84 ans, suscite lui aussi l'inquiétude. Selon les estimations des renseignements, seule la moitié, peut-être un peu plus, des 33 otages seraient encore en vie.
Frédéric Simon, depuis Tel Aviv en Israël pour Europe 1. Aux États-Unis, un changement très symbolique. La cérémonie d'investiture de Donald Trump aura finalement lieu à l'intérieur du Capitole et non pas à l'extérieur, comme c'est traditionnellement le cas. Le président américain évoque le froid glacial pour motiver ce changement. Je cite « Les prévisions météorologiques pour Washington pourraient amener à des températures records. Je ne veux pas que des gens soient blessés de quelque manière que ce soit. » La cérémonie d'investiture de Donald Trump aura lieu lundi pour nous. 7h16, on marque une dernière pause dans ce journal. Juste après ça, on parlera des événements du week-end sur le territoire et bien évidemment des sports avec l'Open d'Australie notamment.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal est au fichu.
Notez qu'à Boulou Paris, le SIVM Sud organise aujourd'hui une journée portes ouvertes dans le nouveau centre de secours de la commune. Au programme, dès 9h et jusqu'à 15h, des démonstrations des savoirs, mais aussi de savoir-faire. C'est aujourd'hui également le dernier jour du rallye des friperies. 6 magasins de vêtements de seconde main s'associent pour faire connaître leur enseigne. Le but est de promouvoir la seconde main sur le territoire, et ça de manière ludique. Enfin, un vide-grenier du tennis social club qui animera demain de 7h30 à 11h30 le complexe sportif Anne-Marie Moreau. Ça se passera donc du côté du receiving. Et du coup, on parle sport avec du tennis. On passe du receiving à l'actualité sportive du côté de l'Open d'Australie, Michael.
Oui, on va commencer par le tableau. Messieurs à Melbourne avec Hugo Humbert qui poursuit l'aventure à l'issue d'un duel franco-français face à Arthur Fils. Ce dernier a jeté l'éponge dans le quatrième set pour laisser Humbert rallier les huitièmes de finale. Hugo Humbert qui aura toutefois un grand challenge devant lui, l'Allemand Alexander Zverev ce dimanche. Benjamin Bonzi a lui été éliminé par le Tchèque Jiří Lehecka. Alors dès aujourd'hui, deux tricolores tenteront d'aller en deuxième semaine. À chaque fois, ils seront opposés à des Américains. Corentin Moutet affrontera l'Irlande tandis que Gaël Monfils fera face à Taylor Fritz. On écoute Gaël Monfils.
C'est un match très dur, quatrième mondial. Il a fait sa première finale de Grand Chelem chez lui. Il est en pleine bourre, donc ça va être un match très dur.
Et du côté des têtes de série, Novak Djokovic l'a emporté hier sur le Tchèque Thomas Machak 6-1, 6-4, 6-4. Carlos Alcaraz a dû s'employer pour battre le Portugais Nuno Borges en 4-7, 6-2, 6-4, 7-6, 6-2. Dans le tableau féminin à présent, Coco Gauff, l'Américaine, a dominé la Canadienne Leila Fernandez en deux manches pour se hisser en huitième de finale. Arina Sabalenka, la Bélarusse, double tenante du titre, s'est imposée sur la Danoise Clara Towson 7-6, 6-4. Aujourd'hui, on signalera notamment que la Polonaise Iga Swiatek sera opposée à la Britannique Emma Raducanu.
On passe au football avec la 18e journée de Ligue 1. Pour ouvrir le bal, nous avions droit à un duel des extrêmes entre Monaco et Montpellier.
Exactement. Et les Montpellierains, lanterne rouge du championnat de France, ont créé la surprise en l'emportant sur les Monégasques, 3e du classement. Victoire de Montpellier 2-1 grâce à un doublé d'Altamari en deuxième période, alors que Monaco menait à la pause 1-0. En ce moment même, Lille, le 5e de la Ligue 1, accueille Nice, 4e. Les deux équipes peuvent tenter de se hisser sur le podium après le faux pas des Monégasques. Notez que dès demain matin, le Paris Saint-Germain se déplacera à Lens. Il y aura un derby breton, Rennes contre Brest, et Lyon recevra Toulouse.
L'actualité du rugby avec la 4e journée de la Champions Cup.
Et côté club tricolore, le Stade français ouvrira le bal en Afrique du Sud face aux Bulls, alors que le Racing 92 recevra les Stormers, une autre franchise sud-africaine. Après deux défaites consécutives, Clermont Clermont doit se rattraper contre Bristol, bon dernier du groupe 2. Le Stade Rochelais affrontera les Italiens de Benetton. Le Castres Olympique aura fort à faire sur la pelouse des Saracens. Enfin, l'UBB, le Stade Toulousain et Toulon, invaincus après les trois premières rencontres, seront respectivement opposés aux Sharks sud-africains, aux Anglais de Leicester et les Sale Sharks.
On parle de handball maintenant avec la suite du premier tour du championnat du monde.
Oui, le troisième match de l'équipe de France. Après deux victoires d'affilée, les Bleus sont bien rentrés dans la compétition. Ils espèrent se hisser dans le tour préliminaire du tournoi, évidemment en enchaînant le maximum de victoires durant ce début de compétition.
Oui, ils joueront contre l'Autriche. Ce sera dimanche matin à 4h pour nous. Les sports d'hiver, l'équipe de France de biathlon qui s'est imposée sur le relais messieurs lors de l'étape de la Coupe du Monde à Ruhpolding.
Oui, sur les pistes allemandes, les Bleus, tout en maîtrise, ont remporté leur troisième relais d'affilée en Coupe du Monde. Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin ont emporté la victoire. La Suède a terminé deuxième, tandis que l'Allemagne a complété le podium en finissant devant les redoutables Norvégiens.
Et c'était également le grand final pour le Dakar 2025, Michael.
Ouais, dans la catégorie auto, c'est le Saoudien Yazid Al-Hadji qui est entré dans l'histoire en décrochant la victoire pour sa 11e participation, la première de sa carrière, la première pour un pilote saoudien. Il a devancé le Sud-Africain Henk Lategen et le Suédois Mathias Ekström. Le Qatari Nasser Al-Attiyah a fini 4e. Et puis dans la catégorie moto, c'est l'Australien Daniel Sanders sur KTM qui s'est imposé. Il a devancé l'Espagnol Tosha Ascarena. Le Français Adrien Van Beveren a terminé à la 3e place sur le podium au guidon de sa Honda.
Ça a été une course de fou, le plus dur Dakar certainement que j'ai fait, je l'ai dit l'an dernier mais je le redis cette année. Le niveau de kilométrage, de navigation, une intensité exceptionnelle, un rythme de fou dans la bagarre. Et ça me tenait à cœur aujourd'hui d'attaquer fort, je me suis fait vraiment plaisir pour cette dernière. Et puis finir sur le podium, c'est un très gros résultat, il faut le savourer.
C'est le deuxième podium en carrière d'Adrien Van Beveren sur le Dakar. Il avait réussi à terminer deuxième en 2024. On signalera également la victoire dans une catégorie intermédiaire de deux tricolores, Pierre Lachaume et Christophe Crespo. Ils l'ont emporté en tout terrain prototype.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Le sport en Calédonie, l'haltérophilie fait sa rentrée aujourd'hui avec une compétition organisée au Mont d'Or.
La Ligue régionale de Nouvelle-Calédonie d'haltérophilie et de musculation qui organise en effet la première manche du championnat territorial. Le détail avec Kevin Liquitine, il est le président de la Ligue calédonienne.
C'est ouvert à tous les licenciés détenteurs d'une licence compétition, tout âge et toute catégorie de poids confondu. Ben, le but pour eux, c'est de réaliser une première manche et de gagner le maximum de points. Et lors de la finale, toutes les manches seront additionnées pour décerner du coup le titre final. Une manche donc samedi 18, une manche le 8 mars et une manche le 13 avril. C'est des échéances qui sont qualificatives et les qualifications elles se jouent par rapport à la catégorie de poids et à l'âge. Et du coup, en fonction du résultat réalisé, il y a des minima qui sont imposés par les fédérations ou par la Ligue. Et si les minima sont atteints sur les trois compétitions qui vont arriver là, eh ben, ils pourront prétendre à une place du coup, sur des événements tels que les championnats de France ou les Océania ou bien les mini-jeux.
Le championnat territorial d'haltérophilie, c'est donc ce matin, première manche à partir de 10h30. Ça se passe à l'Institut d'haltérophilie à Boulary, au Mont d'Or.
Merci Mickaël, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, Nicolas, c'est avec vous.
Alors, ce matin, les nuages élevés couvriront progressivement tout le territoire. Ils deviendront plus épais et masqueront parfois le soleil. Au Loireauté, sur la côte est, quelques nuages bas circuleront encore. Le vent soufflera au secteur nord-ouest entre 5 et 10 nœuds en général. Il dépassera localement les 10 nœuds sur le nord-ouest. Cet après-midi, sur la chaîne et ses abords, les développements nuageux donneront de bonnes averses et un coup de tonnerre n'est pas exclu en fin d'après-midi. Au Loireauté, les développements seront plus limités, mais ils pourront néanmoins donner de faibles averses, en particulier vers marée. Le vent de secteur nord-ouest se maintiendra entre 5 et 10 nœuds en général. Il dépassera rarement les 10 nœuds sur l'ouest. Les températures maximales seront supérieures au normal et s'échelonneront entre 31 et 34 degrés. Fera chaud.
Merci Nicolas.